Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La persécution est une réalité douloureuse qui touche de nombreux chrétiens à travers le monde. Il est donc pertinent de comprendre ce que la Bible dit à ce sujet. Pour cette raison, nous réfléchirons sur ce thème de la persécution tout au long de cette série d'émissions.
Nous sommes contents d'accueillir Didier sur le plateau d'Espérance aujourd'hui. Didier, bonjour.
Merci Yann et bonjour à tous. Pendant les trois dernières émissions, nous avons considéré le thème de la persécution en nous appuyant sur l'exemple de Jésus et son enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème à partir du livre biblique appelé les Actes des Apôtres.
Le livre des Actes des Apôtres raconte la croissance des premières églises. Il s'agit d'une croissance assez rapide.
C'est vrai, Yann. Et pourtant, il faut l'admettre, cette croissance existe sur un fond de persécution. Et nous retrouvons cette réalité tout au long de ce livre. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les premiers incidents liés à la persécution que l'Église naissante à Jérusalem a rencontrée. Permettez-moi de raconter brièvement le récit relaté au chapitre 4 des Actes des Apôtres. Ces événements ont eu lieu peu de temps après la naissance de l'Église à Jérusalem, qui a commencé le jour de la Pentecôte, un jour merveilleux où plus de 3000 personnes ont répondu favorablement à la bonne nouvelle. Voilà ce qui s'est passé. Les apôtres Pierre et Jean sont allés au temple et y ont guéri un homme paralysé. Ensuite, ils se sont mis à proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Suite à cela, les autorités religieuses juives ont obligé les apôtres à comparaître devant le conseil. Voici l'issue de l'interrogatoire. Il s'agit de la lecture dans Actes au chapitre 4, des versets 17 à 21.
Il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons-leur donc, sous peine de sanction, de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. Là-dessus, ils les firent rappeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent : Jugez-en vous-même, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent.
Ainsi, nous constatons que les autorités religieuses juives veulent étouffer le message annoncé par les apôtres. Ce n'est pas étonnant, puisque ces mêmes personnes avaient, quelques semaines auparavant, condamné Jésus à mourir. Le conseil interdit maintenant aux apôtres d'enseigner au nom de Jésus.
Oui, et c'est sur ce point que je voudrais m'arrêter quelques minutes. Car Pierre et Jean annoncent leur intention de ne pas se soumettre à cette interdiction. Et cela soulève une question importante.
Laquelle ?
La Bible enseigne qu'en règle générale, le chrétien doit se soumettre aux autorités et qu'il doit obéir à ceux qui le gouvernent.
Et pourtant ici, les apôtres annoncent leur intention de ne pas obéir aux décisions du conseil. Que conclure alors ?
Ma conclusion est celle-ci. Dans des cas précis, le chrétien n'est pas obligé d'obéir à l'État, et ceci, notamment, quand l'État lui impose de faire quelque chose qui est clairement en contradiction avec la volonté de Jésus. Dans l'exemple lu, les autorités interdisent l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus, mais les apôtres, en retour, déclarent que leur allégeance à Jésus est de la plus haute importance. Ce dernier leur a confié la mission d'annoncer son nom où qu'ils aillent et les apôtres ont la ferme intention d'accomplir cette mission. Nous devons faire très attention. Ce texte ne nous donne pas carte blanche pour désobéir à n'importe quel règlement ou loi émanant de l'État ou des autorités locales. Ce texte ne nous donne pas non plus la permission de résister aux autorités en prenant les armes et en ayant recours à la violence. Non ! Tout ce que ce récit permet de dire, c'est que l'Église doit trouver les moyens d'accomplir le rôle et la mission que Dieu lui a confiée, et ceci même quand l'État s'oppose à elle en promulguant des interdictions à ce sujet. Pour toute autre chose, ne s'opposant pas à la volonté de Dieu, le chrétien doit continuer à se soumettre à l'État.
Merci. Il faut, me semble-t-il, beaucoup de sagesse pour savoir exactement dans quelles circonstances nous pouvons franchir ce pas important de désobéissance à l'État.
C'est exact, Yann. Et nous pouvons faire confiance à Jésus et lui demander de nous accorder la sagesse nécessaire à ce sujet. Il faut aussi ajouter qu'il faut beaucoup de courage pour franchir ce pas. Car en défiant ainsi les autorités, les chrétiens courent de grands risques. Prenons l'exemple des Actes des apôtres. Jean et Pierre ont annoncé leur intention de continuer à promouvoir le message de Jésus et, les jours suivants, ils sont effectivement sortis pour proclamer la bonne nouvelle de la résurrection. Mais cette fois-ci, les autorités se sont montrées plus dures encore. Les apôtres ont passé du temps en prison et ils ont été battus avant d'être relâchés. De plus, le livre des Actes des apôtres relate même que, quelque temps après, un chrétien nommé Étienne fut le premier à mourir pour sa foi, pour avoir publiquement proclamé que Jésus était ressuscité. J'insiste sur le fait qu'il faut avoir du courage pour annoncer la bonne nouvelle dans un contexte où cela est interdit. Jésus a eu le courage de vivre la croix pour porter nos péchés. Fort de son exemple, nous pouvons trouver le courage d'être un témoin bon et fidèle, même dans un contexte où les autorités cherchent, par ces règlements et interdictions, à réduire l'Église au silence.
Oui, il faut du courage pour témoigner de Jésus. Mais où trouver ce courage?
La suite du récit est très instructive. Lorsque les apôtres Pierre et Jean quittent le tribunal, ils réunissent les croyants pour expliquer ce qui leur était arrivé. Écoutons dans Actes, chapitre 4, le verset 24.
Après les avoir écoutés, tous, unanimes, se mirent à prier Dieu.
La prière est un véritable réflexe pour l'Église naissante à Jérusalem, et pour nous aussi. Dès que nous rencontrons l'opposition ou que nous sommes assaillis de soucis, il est bon que l'Église se réunisse pour prier. À présent, écoutons le contenu des prières de cette église, confrontée à l'opposition, dans le verset 29 du même chapitre.
Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance.
Il est intéressant de noter que ces croyants n'ont pas demandé que Dieu les protège ou qu'il arrête leurs persécuteurs dans leurs mauvaises intentions. Non, ils ont prié pour que les disciples trouvent le courage de persévérer dans l'annonce de la bonne nouvelle.
C'est assez étonnant. Mais est-ce que Dieu a répondu aux prières de ses croyants?
Bien sûr que oui. Écoutons un dernier verset, le 31 dans le même chapitre.
Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
Le voyez-vous? Le courage d'annoncer la bonne nouvelle vient de l'Esprit-Saint qui répond aux prières du peuple de Dieu.
Et lors de notre dernière émission, vous avez parlé d'une promesse de Jésus, celle de l'Esprit qui renouvellera le courage des chrétiens persécutés et qui leur donnera les paroles justes.
Oui. Jésus est fidèle à ses promesses. Nous le voyons tout au long du livre des Actes des apôtres et à travers les siècles. En effet, l'Esprit-Saint est tout particulièrement présent avec l'Église persécutée pour aider les croyants à tenir ferme et à persévérer, mais aussi pour leur permettre de rendre un bon témoignage avec courage et sagesse.
Merci. Le moment est venu d'annoncer notre courte méditation qui s'inspire de la première lettre de l'apôtre Pierre. Elle fera suite à ce que nous venons d'entendre, car Pierre a écrit aux chrétiens persécutés, vivant en Asie mineure. Dans quelques instants, Antoine sera de retour parmi nous pour nous faire part de ses réflexions. Mais écoutons d'abord la lecture du verset 14 en 1 Pierre chapitre 4.
Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous.
La Bible contient des paroles surprenantes, et celles que nous venons de lire en sont un exemple. Pierre affirme que le chrétien insulté, méprisé ou maltraité, en raison de sa foi en Jésus, peut se considérer heureux ou béni. Nous le savons tous, les insultes et les calomnies sont très blessantes, tout comme les coups de poing ou de poignard, tout comme la discrimination ou la marginalisation. Être persécuté pour sa foi en Jésus-Christ est une épreuve douloureuse. Comment donc Pierre peut-il affirmer que ces croyants-là doivent se considérer comme bénis? Il faut le préciser, la joie ou la bénédiction ne vient pas directement de la persécution, mais plutôt de ce que Dieu accomplit dans la vie de celui qui est persécuté. Pierre affirme que l'Esprit de Dieu repose tout particulièrement sur le chrétien persécuté. Quelle bénédiction! Il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en tout chrétien authentique et qu'il est source de bénédiction pour tout croyant sincère. Cependant, l'Esprit de Dieu accompagne tout particulièrement celles et ceux qui subissent des fausses accusations, qui reçoivent des injures, qui connaissent l'emprisonnement ou la violence en raison de leur foi. Dans l'Évangile de Jean, Jésus affirme que l'Esprit est le paraclète. Ce mot grec désigne une personne qui vient à côté d'une autre pour la soutenir à travers une épreuve difficile. Oui, le Saint-Esprit est Dieu avec nous pour nous soutenir dans nos heures les plus sombres, et particulièrement au creuset de la souffrance causée par la persécution. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Il nous relève, il nous redonne du courage, il renouvelle notre espérance, il nous donne les paroles justes en toute occasion, il nous garde, il nous aide à persévérer et à tenir ferme. Pour toutes ces raisons, nous pouvons nous considérer comme bénis, car même dans les pires moments de la persécution, l'Esprit est là pour nous soutenir et il ne nous abandonnera jamais.
Merci Antoine pour ces paroles d'encouragement. Chers amis, nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour poursuivre leurs réflexions sur le thème de la persécution.
En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.